et sortent la maison.
Marche dans le jardin.
Le suicide serait peut-être une bonne solution. Au lieu d'attendre, de souffrir le martyr. À quoi bon souffrir? Il existe des morts plus douces.
Elle marche en essayant de ne plus y penser, mais...
Je suis seule, plus de famille. Non, au moins, personne n'aura de la peine. Avant de mourir, j'aurai à m'occuper de quoi? Tout ce que je laisse ira à l'État. Si mon fils était vivant, je m'en vais tout de même pas me mettre à dire que je vais mourir. C'est terrible. Tout le monde meurt. Le plus terrible, c'est peut-être de savoir quand et comment. Je pourrais mourir noyé.
Les jours passent, elle pense constamment à ça, ne peut faire autrement. Le médecin n'a pas repris sa serviette. Au fur et à mesure que les jours passent, elle trouve lugubre l'endroit où on l'a mise.
C'est un mouroir pour que je puisse finir mes jours heureux, comme une vieille femme. On me laisse même pas finir mes jours chez les vivants.
Elle essaye de te distraire en regardant la nature, à trouver beau ce qu'elle voit, beau et merveilleux. Mais cela ne l'empêche pas de penser à sa fin à elle.
Je vais bientôt être une légume qui va souffrir à mort. Quelle horreur! Je ne pourrai plus manger, parler. J'aurai des tas de tuyaux. Galien va la voir, elle le reçoit au salon.
Entrez.
Bonjour.
Bonjour, Candia.
Vous semblez en pleine forme, elle lui dit.
En pleine forme pour souffrir.
Comment ça, vous souffrez?
Non, pas pour le moment, mais je me prépare.
Il lui dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez des malaises?
Rassurez-vous, pas pour le moment, mais cela ne va pas tarder.
Il lui dit, vous avez le cafard, et vous ne croyez pas à votre guérison.
C'est cela. Ma rechute est pour dans 6 ou 12 mois. N'est-ce pas?
Galien rougit. Qui vous a dit ça?
Personne, mais je l'ai lu. Votre médecin a oublié sa serviette. J'ai fait tomber ce qu'elle contenait accidentellement et j'ai trouvé mon dossier. Alors je l'ai lu. Ça me regarde tout de même.
Galien lui dit.
Je vois.
Elle lui dit.
Vous lui rendrez sa serviette. Il n'est pas venu la chercher.
Il avale sa salive et lui dit.
Je peux vous parler?
Elle lui dit.
À quoi bon? Je sais tout.
Il lui dit. Peut-être pas l'essentiel. Asseyons-nous.
Elle lui dit. C'est ça. Soyons civilisés.
Et ils vont s'asseoir.
Elle lui dit, vous voulez me dire la vérité? Je la connais. Je suis une des rares personnes qui a son avenir écrite.
Non, je suis venu vous dire c'est qu'il faut que vous continuiez à vivre normalement. Vous savez, on vous a enlevé tout ce qui devait être enlevé. Et qui sait que plus peut-être?
Oh, je vous en prie. Vous êtes gentil, mais ne gâchez pas tout ça avec de faux espoirs. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais ne gâchez pas tout ça par des mensonges. Je vous dirais, c'est que ce n'est pas de mourir que j'ai peur, mais de souffrir.
Il lui dit, que comptez-vous faire?
Je ne sais pas.
Il lui dit, continuez à vivre tant que vous le pouvez et ne vous enterrez pas dès maintenant. Je vous promets que je vous aiderai et le docteur aussi. Ne pensez plus à tout ça. Vous vous sentez bien. Vous m'avez dit que vous aviez l'air d'avoir rajeuni. Ne gâchez pas ce présent. Vous vous sentez comme une jeune fille en faisant comme si vous étiez à la mort. Pour le moment, vous vous sentez en pleine forme. Eh bien, vivez comme tel. Vous avez bien le temps. Vous aurez bien le temps de vivre autrement. Vivez, profitez de la force de vivre de votre corps. Elle réfléchit et lui dit.
Vous avez raison. Je ne suis qu'une vieille folle. La mort ne doit pas être ma compagne. Je veux vivre normalement. Nous allons faire un bon repas et ensuite nous irons nous promener. C'est ce qu'il faut faire.
Lorsque Galien est parti, elle se sentait bien. Galien a pris la serviette du médecin. Et, une fois arrivé à Paris, il a lui... Il lui rend la serviette.
Tenez, malheureusement, elle a lu son dossier.
Elle sait tout.
Ricain lui demande. Comment l'a-t-elle pris ?
Très mal.
Ah, et que va-t-elle faire ?
Elle m'a promis qu'elle continuerait à vivre normalement. Mais je ne sais pas. Je serais très triste s'il lui arrivait quelque chose. Vous m'avez compris ?
Oui, monsieur. Mais que faire ?
La surveiller de près et lui remonter le moral, mais sans lui dire qu'elle va guérir, après ce qu'elle a lu, pas la peine de lui mentir sur ce sujet. Elle serait furieuse. Mais lui remonter le moral en lui rendant la vie agréable et qu'elle ait confiance en vous, Riquin lui dit.
Bien, je ferai de mon mieux. Mais comment va-t-elle me recevoir ?
Galien lui dit. Je crois qu'elle ne vous dira rien. Une fois que Galien est parti, Riquin va chez Danfort.
Entrez. Bonjour. Venez vous asseoir, mon cher Riquin.
Elle lui dit, j'ai laissé exprès le dossier de Madame de Flory pour qu'elle le lise, pour qu'elle soit suffisamment démoralisée, pour qu'elle en finisse. Ganfort lui demande,
alors ?
Rien. L'élu le sait. Il ne sait pas bien si je l'ai fait exprès, mais il le sait qu'elle le sait. Elle semble assez troublée. Mais il lui a remonté le moral et m'a donné l'ordre d'en faire autant. L'enfant lui dit,
« Il faut obéir à l'élu. Et pourquoi voulez-vous en finir avec Madame de Flory qui ne nous gêne pas ?»
Riquin lui dit, « Elle distrait trop l'élu. Et en plus, elle est la mère de ce Guillaume. Si elle meurt, comme Guillaume apprendra sa mort qu'après, cela va créer un froid entre les deux. » Il faut tout faire pour séparer l'élu de ce Guillaume. Il y a déjà ce Philippe que l'on ne peut à peine toucher puisqu'il a le même sang que l'élu, mais Guillaume. Il faut absolument, avant la force finale, que l'élu soit libéré de tout ça. Un élu ne peut être l'amant de ce petit pédé.
Riquin lui dit, « Certains dieux ont eu des amants, Zeus par exemple. »
Riquin lui dit, « Oui, mais ils avaient des femmes aussi, et avaient des compagnes de femmes avec qui ils ont eu des enfants. »
Danfort lui dit, « L'élu aussi a eu des maîtresses. »
« Oui, mais c'était que des maîtresses sans importance. Il a toujours été vers ses deux amis. Or, il faut les éliminer, et pour cela, tout est permis. »
Danfort lui dit, « Sauf la désobéissance à l'élu. »
Riquin lui dit, « Bien entendu, sans lui désobéir, on peut faire ce qu'il ne souhaite pas, mais qui est bon pour lui. » Pendant ce temps, dans son bureau, Galien se demande s'il doit dire à Guillaume que sa mère est très malade. Il va m'en vouloir. que je ne lui en ai pas parlé plus tôt. Si je ne lui en parle pas, quand il le saura, il m'en voudra encore plus. Il faudra peut-être aller le voir. Là, il n'en est pas question. Bon, eh bien tant pis. Il sera peut-être furieux, mais je vais tout de même le lui dire. Et le lendemain, qui est un vendredi, comme tous les vendredis après-midi, il va au château passer la fin de semaine. Il retrouve Guillaume dans le hall d'entrée pour l'accueillir.
Bonjour Galien, t'as fait bon voyage?
Oui merci, toi bonne semaine?
Comme d'habitude, il s'embrasse sur la joue.
Et Galien lui dit, j'ai quelque chose d'important à te dire. Dans ta chambre. Guillaume lui dit, avec le sourire en coin, il est bien pressé de me retrouver. Galien ne dit rien. Il monte jusqu'à la chambre de Guillaume.
Dans la chambre, Guillaume plonge sur le lit.
Galien ne vient pas le rejoindre.
Tu ne viens pas?
Non, je suis pas venu pour ça. Je t'ai fait venir. Voilà. Ta mère est très malade.
Ah, qu'a-t-elle?
Elle a une très grave maladie. Elle a une tumeur au cerveau. Guillaume devient blanc et demande.
Elle est guérie?
Elle a fait une chute. J'étais avec elle. J'ai tout de suite appelé un médecin. Clinique et tout. En faisant les examens, on s'est rendu compte qu'elle avait une tumeur. Il fallait l'opérer de suite. Mais malgré l'opération, elle est perdue.
Guillaume soupire et demande. Tu sais depuis quand?
Quelques semaines déjà, mais j'ai pas osé te le dire.
Guillaume lui demande, tu es sûr qu'elle est perdue?
Oui, malheureusement. Une tumeur, ça ne se guérit pas.
Guillaume lui dit, je comprends. J'ai lu des choses là-dessus.
Souffre-t-elle?
Non, elle dit même qu'elle est en pleine forme.
C'est elle qu'elle est perdue?
Malheureusement, oui. Elle l'a apprise.
Mon Dieu, ma mère.
Il se taise un moment, puis Guillaume lui dit,
sauve le cerveau pour qu'elle puisse vivre.
Galien lui dit,
non, c'est impossible.
Guillaume se lève et fait les 100 pas. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi ?
que le cerveau est attaqué, il est bouffé.
Guillaume lui dit, vous avez bien remis en vie des cerveaux de mort.
Galien lui dit, oui, mais il n'avait pas cette saleté qui bouffe tout.
Il soupire et dit, il est trop tard. Si dès le début, avant que la tumeur n'ait fait trop de dégâts, nous aurions pu prendre une partie du cerveau en bon état ou faire disparaître cette saleté avec des bactéries. Maintenant, le cerveau est bouffé, mort en grande partie. Il n'y a plus rien à faire.
Guillaume soupire et va vers Galien et lui dit, je veux revoir ma mère avant qu'il ne soit trop tard.
Galien lui dit, non, surtout pas. Tu feras un choc trop fort. Cela risquerait de la tuer de suite.
Guillaume lui dit, elle va mourir sans que je la voie alors.
Galien lui dit, on ne peut pas faire autrement, malheureusement.
Guillaume lui dit, mais c'est terrible.
Galien lui dit, elle te croit mort.
Guillaume pleure.
Galien le prend dans ses bras.
Guillaume lui dit, c'est ta faute.
J'y suis pour rien, si ta mère a une tumeur.
Si, pour que je ne puisse la revoir. Et puis, à quoi bon m'avoir prolongé la vie, si pour que j'apprenne ça.
Galien lui dit, c'est le hasard. On ne peut pas savoir qu'elle allait mourir. Et puis la mort fait partie de la vie. Et ce n'est pas parce que nos parents meurent qu'il faut pas vivre. Ta mère t'a donné la vie pour que tu puisses continuer à vivre, pour que tu puisses lui succéder. Tu comprends?
Guillaume demande, elle est où?
Elle est à Paris. J'avais l'emmenée à la campagne pour qu'elle puisse se reposer de son opération. Au bout de quelques jours, elle a voulu retourner chez elle. Une infirmière est près d'elle et un médecin va la voir.
Sa fin de semaine presse en silence.
Galien essaie de réconforter Guillaume, mais il reste fermé à son aide.
Après la fin de semaine, Galien s'en retourne en Paris, à Paris.
Une fois qu'il est parti, Guillaume prend de l'argent et décide de partir pour Paris sans rien dire.
Il a quitté le château et va à pied jusqu'à la gare.
Arrivé à la gare, il prend un billet pour Paris.
Mesdames,
Un quart d'heure plus tard, il est dans le train qui roule vers Paris. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le train. Je ne sais pas pourquoi, mais il se sent gêné de partir comme ça, sans rien dire. Puis il se dit, zut, je suis libre, je ne suis pas un prisonnier tout de même. Après 5 heures de train, très pénible, le train s'est souvent arrêté. Guillaume n'a pas pu ni manger ni boire. Il est épuisé. Arrivé à Paris, il pleut. Triste, très triste. Le temps est triste aussi. Et il n'a plus l'habitude de la ville. De la gare, il est surpris par toute cette grisaille, ces immeubles à moitié en ruine, les détritus à terre, les voitures à moitié abandonnées, les gens mal habillés, sales, maigres, tristes, les magasins presque vides, la chaussée défoncée. Il se souvenait plus de tout ça et vivait en dehors du monde. Cela lui donne le cafard. Il est entré dans un restaurant pour manger un petit quelque chose. Le restaurant, la salle est simple. Il y a quelques personnes à table. Un jeune homme à tablier blanc vient à lui. Il est blond, grand, mince. Vous désirez, monsieur ? Guillaume lui dit. Une table, monsieur, pour manger. Le serveur lui dit. Je vais voir, monsieur, car il y a des jours sans et des jours avec. Guillaume lui demande, avec quoi ? Des provisions, monsieur ?
J'ai l'impression que le temps passe à une vitesse aujourd'hui.
Et deux personnes qui sont là. Le serveur lui dit,
qui sont des handicapés cartes roses.
Ils ont priorité.
Avant que le serveur s'éloigne, Guillaume lui dit « Je viens de faire un voyage en train de 5 heures, sans boire ni manger. Je ne demande pas un repas, mais quelque chose au moins. »
Le
serveur s'éloigne.
Et pour moi, croque-monsieur,
il revient et dit « Nous pouvons vous offrir que du jambon et des petits pois. »
Très bien. Le serveur l'emmène à une table, puis va chercher le repas.
Vous pouvez m'amener le sandwich d'abord, hein. Le croque-monsieur peut attendre.
Je suis pas seule. Quoi, de toute façon.
Tu es venu me voir ce matin à 7h.
À 7h?
Mmh.
Où, chez toi?
Une demi-heure plus tard, Guillaume est sorti du restaurant en se disant « c'est un peu cher ». Il marche dans les rues. Enfin, il voit un magasin de farce et attrape. Il y rentre. Une vendeuse, grande, mince, blonde, dans les 40 ans, habillée d'une robe écossaise avec un chemisier rouge. « Vous désirez, monsieur ?»« J'aimerais savoir une moustache, des lunettes et peut-être une perruque. C'est pour un film que je fais entre amis. »«
Bien !»
Elle lui montre plusieurs moustaches. Il prend la plus discrète, c'est-à-dire la moins grosse. Une perruque, prend celle qui a le moins de cheveux épais et qui va avec la moustache. Puis, une paire de lunettes en métal blanc, petites et rondes. La moustache et la perruque sont châtains. Je désire partir déguisé, si vous me donnez la colle.
Bien, monsieur.
Et il sort du magasin, fait un peu plus sérieux et un peu plus vieux, mais guère. Il a l'air d'un professeur. Son déguisement fait naturel. Il se dirige vers chez sa mère. Si elle me reconnaît, ma foi, tant pis. Ému, très ému, il retrouve la rue où il habite sa mère. Elle n'a pas changé. Le corps battant, il va rentrer dans l'immeuble où elle habite. Il monte à l'étage. Face de lui, elle est derrière. Il faut qu'il sonne. Il hésite. Puis, en fermant les yeux, il appuie sur la sonnette qui retentit. C'est lui qui fait tant de bruit. C'est lui qui fait tout ce bruit. Lui qui veut être discret.
Il entend que l'on ouvre la porte. Il a chaud.
Son corps bat. C'est la bonne, la petite bonne.
Monsieur.
Il hésite, ne sait que dire, n'a rien préparé, même pas quel nom il doit présenter. Je suis Jacques Mallet, et j'aimerais voir Madame de Fleury. Elle lui dit,
je vais voir monsieur.
Et elle le laisse. Il se dit, cela fait drôle de me présenter comme un étranger chez ma mère. Il sent l'odeur de l'appartement et sa lumière. Cela lui fait mal d'attendre comme un étranger. La bonne revient.
Madame veut bien vous recevoir. Veuillez me suivre, monsieur.
Elle l'appelle madame. Lui, le fils. La bonne le conduit au salon.
Entrez, monsieur.
Il entre. Le salon n'a pas changé. Il attend debout, ému. Comment sera-t-elle? A-t-elle vieilli? Et elle, comment va-t-elle me trouver? Je suis mort de peur. La porte est ouverte derrière lui. Il se retourne et la voit.
Mon Dieu, je suis mort pour elle. Elle est en peignoir beige sur une chemise de nuit blanche. Le teint frais, un bandeau sur les cheveux en soie blanc. Elle sent bien, fraîche, pas l'air malade. Elle lui dit,
« Vous désirez me parler, monsieur ?»
Elle l'appelle monsieur. C'est elle. C'est qu'elle ne l'a pas reconnu. Lui, le fils, cela lui fait mal. Il lui dit, « Je m'excuse de vous déranger, madame, mais je suis un ami de votre fils. Je m'appelle Jacques Merlet, et comme cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles, je suis venu vous voir à tout hasard. » Elle parlait et lui dit,
« Malheureusement, monsieur, mon fils a décédé il y a de cela quelques années. »
Cela leur fait mal, à tous les deux. À elle, d'avoir annoncé la mort de son fils, le couteau enfoncé dans la plaie. À lui, de l'apprendre par sa mère, qui ne le reconnaît pas, et envie de lui dire, « Mais non, c'est moi, je ne suis pas mort. » Mais non, il doit jouer la comédie. Il lui dit, « Il est mort de quoi ?»
Elle lui répond, « D'un accident de voiture. »
Il ne veut pas lui en demander plus. « Je suis navré, madame. » Elle lui dit,
« C'est terrible de perdre un enfant. »
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.